Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI, bien sûr ici à Paris et en direct pour vous parler de football, oublie un peu le ballon d'or, n'est-ce pas ? Et parler de l'OM, l'OM sur une bonne dynamique, Marseille prend ses aises de dauphin en alignant les victoires convaincantes. À quoi est due cette bonne série ? Aux joueurs très motivés ou à leur entraîneur ? Serait-ce un feu de paillettes ? La défaite de l'OL est-elle un accident ou une rechute alors que se profile le match capital contre Leipzig en Ligue des Champions ? Karine Galli arrive tout juste de Lyon, elle va nous raconter ça. Bonjour Karine.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Effectivement, j'ai pas vu un grand match, ça c'est une évidence.
Bon, vous nous direz si vous êtes inquiète. Nouvel épisode du duel au sommet de la Serie A entre la Juventus de Turin et l'Inter Milan. Mais qui est le plus fort ? Sarri ou Conte ? Cristiano Ronaldo ou Lautaro Martinez ? Ou bien Paolo Dybala ? Matteo Cioffi nous en dira plus d'ici quelques instants. José Mourinho de retour au théâtre des rêves, ou de ses cauchemars d'ailleurs. Les supporters ne lui en veulent pas au regard de son bilan, mais ce soir, Tottenham sera là pour continuer à gagner dans le sillage de Mourinho, alors que les mancuniens de Solskjaer sont à la peine. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie.
Vous serez
Bonjour
pour match, vous êtes avec nous.
Exactement, je préfère être avec vous.
Vous allez tout nous dire quand même. Ouais. Et puis Eric Rabessandratana est là, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour
le
à tous.
Le PSG joue,
tous.
Mais ce soir.
Ouais.
Hein
ouais. Ouais. Ça devrait se passer normalement bien, on va dire.
Normalement bien. Normalement qu'est-ce que bien. Ça veut dire normalement bien avec
bien,
le PSG
bah, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'attendre à tout avec Paris.
Hein, n'est-ce pas ? C'est toujours la surprise.
C'est ça.
Radio Foot, c'est parti.
Après 16 minutes de jeu, c'est joué rapidement. Pas de coup de sifflet, Morgan Sanson. Et l'occasion déjà de mettre l'OM devant. Alors qu'Angers dominait cette partie, il a fallu une erreur d'inattention et du génie dans le pied de Dimitri Payet et dans celui de Morgan Sanson pour permettre à l'OM de mener.
On voulait gagner absolument ce match. Après, on savait que ça allait être vraiment compliqué. Maintenant, on a su se mettre dans les meilleures conditions en marquant le premier et le deuxième. On a fait un 5 sur 5.
Penalty, Dimitri Payet, le pied droit du Réunionnais, prend un contre-pied Ludovic Butel, ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille.
Et voilà une cinquième victoire pour l'OM, cinquième consécutive qui conforte donc sa place de dauphin du PSG et 5 points d'avance sur le surprenant troisième qu'est Bordeaux, les Girondins de Bordeaux à la faveur de leur victoire hier sur Nîmes. Leur carton, on peut dire même 6-0, les Croco-Nîmois vont très mal en cette saison en Ligue 1. Mais il y a eu 14 buts en 14 matchs aussi avec le 5-0 de Brest sur Strasbourg, donc pluie de buts dans cette première demi-journée de Ligue 1. Donc Marseille a inscrit 2 buts à Angers, victoire qui lui permet de conforter donc sa deuxième place à 2 points du PSG. Alors là, quand même, on se dit, on louche ou il y a un problème, n'est-ce pas une illusion d'optique, Eric Rabessandratana ? Alors on le raconte, le PSG a en fait 2 matchs de retard. Il joue ce soir à Nantes, mais face à Nantes, ici au Parc des Princes, mais il n'a pas pu aller jouer à Monaco à cause des intempéries au cours du week-end. L'OM, qu'est-ce qui explique cette bonne dynamique, cette série de victoires ? Des joueurs au top de leur forme et tous au même moment, ou bien un entraîneur qui sait bien les mobiliser, qui sait tirer profit sur tout son effectif? Eh bien, écoutons d'abord la version d'André Villas-Boas.
Cette groupe a été extraordinaire. J'étais très bien reçu, moi, mon staff, par le groupe. Et on est capable de faire des choses comme ça avec un groupe qui se trouve dans un état d'esprit correct. Et ça, c'est toujours bon. On peut compter sur la personne qui vient du banc pour faire la différence. Était déjà comme ça à Toulouse, était déjà comme ça contre Brest et aujourd'hui aussi. Parce que Max, Alvaro et Radonjic, ils ont entré avec un état d'esprit tellement aussi.
Alors, quelle est votre analyse à vous, Karine Galli ? Qu'est-ce qui, selon vous, marche du côté de l'OM ?
Alors, déjà aussi, Marseille est deuxième. Grâce à la faiblesse aussi du championnat. Quand ça, tu regardes sûr. Qu'après 16 journées de Ligue 1, tu as 9 victoires. C'est un ratio qui est bien, mais c'est pas un ratio exceptionnel. Après, t'as forcément un Mandanda qui est retrouvé, ça change tout, parce que Mandanda a fait énormément d'arrêts importants depuis le début de la saison, et lui, il est très bon depuis le début de la saison. Et après, c'est aussi une équipe qui est forcément revancharde. Ils ont bien recruté à certains postes, il y avait des problèmes en défense, et Alvaro a fait du bien.
L'année dernière, ils avaient terminé 10e, hein, je me trompe pas, ou 8e.
Quatrième
l'année dernière, mais après être descendu très bas dans le championnat, effectivement, ils avaient un côté revanche l'année dernière, ça n'avait pas suffi. Les 28 journées, c'est combien
Ils avaient fait une très bonne première saison avec Rudy Garcia et cette finale en Ligue Europa, et la deuxième avait été beaucoup plus compliquée. Il y avait des dissensions entre Rudy Garcia,
c'est pareil,
les joueurs.
C'était retrouvé, même sans Ligue des Champions, à l'issue de cette fameuse épopée en Ligue Europa.
Qui avait été très mauvaise, effectivement, et qui s'était arrêtée dès la phase de groupe. Donc il y a un Steve Mandanda qui est retrouvé et qui leur a fait gagner énormément de points, et il y a aussi des joueurs qui sont forcément revanchards, et il y a un mercato qui était plutôt bien fait. Après, il y a quand même des manques à mes yeux, il y a quand même des manques au milieu de terrain, il y a quand même des manques aussi au niveau des latéraux, mais ce qu'ils font c'est cohérent, et Andrés Villas-Boas pour l'instant il fait l'unanimité. Après, c'est toujours pareil. On verra ce qui se passera au bout de 2 ans ou 2-3 ans. Moi, ce qui me gêne juste un petit peu, c'est la hype Payet, parce que là, on est déjà en train de nous expliquer que Payet pourrait peut-être revenir à l'Euro. Payet, c'est un joueur qui est à l'OM depuis des années. Ouais, si on enlève son année à West Ham, qui n'a jamais permis à l'OM de finir sur le podium, et qui cette année les a bien plantés en prenant 4 matchs de suspension après avoir insulté l'arbitre.
Donc, on va y revenir sur Payet. Mais pour l'instant, sur l'ensemble, à quoi vous attribueriez cette bonne dynamique de l'OM, Eric?
D'abord parce que c'est vrai ce qu'a dit Karine.
Alors, la faiblesse du championnat.
Mais non, mais c'est pas seulement la faiblesse du championnat, c'est seulement la faiblesse des équipes qui sont censées être à leur place, c'est-à-dire Lyon, c'est-à-dire je mets Monaco parce que normalement Monaco avec l'équipe qu'ils ont, ils devraient être dans les 5 premiers.
Ils devraient être deuxième.
Donc c'est déjà ça qui est Lyon hier, c'est une catastrophe quand on regarde. Donc je me dis c'est pas possible d'avoir. Alors Marseille profite de tout ça, Marseille fait son chemin en fait.
Oui, mais il y a pas que ça, ils jouent plutôt bien aussi.
Bien sûr. Alors ils sont constants. Voilà, c'est ça, ils sont constants.
Non, mais on voit par exemple, je pense à un Jordan Amavi, il y a des joueurs que cette année qui reviennent quand même.
Mais Sanson aussi, Payet, il a un talent énorme. Alors après, dans la constance, forcément, si on calcule sur toute la saison.
On s'arrêtera sur Payet. Ouais. Mais je pense que c'est pas le seul, effectivement, dans cet effectif. Karine parlait, par exemple, de Mandanda. Mais c'est vrai que Morgan Sanson aussi.
Mais il a redonné confiance quand même à beaucoup de joueurs.
L'entraîneur.
Oui, l'entraîneur.
Et de quelle manière?
Mais par son discours, par sa manière d'être serein. Moi, j'ai aimé la manière dont il a géré les deux défaites consécutives face au PSG et Monaco en Coupe de la Ligue, où tout le monde était tombé sur l'OM, c'était une catastrophe, qu'il avait un discours pessimiste, qu'il n'avait pas le droit d'aller au pas. Non, mais parce qu'on jugeait l'OM par rapport à une équipe qui est stratosphérique, qui est au-delà de ce championnat. Et on les a pas jugés par rapport à un adversaire. Et aujourd'hui, ils sont deuxième de Ligue 1 parce qu'ils sont le meilleur, comme dit Villas-Boas, le meilleur de leur championnat. Ils viennent de faire 5 victoires consécutives depuis ces 2 défaites où tout le monde leur était tombé dessus. Ils ont rien fait d'extraordinaire sur ces 5 victoires. Il y a rien eu dans le jeu qui nous a éblouis, mais c'est cohérent, c'est bien organisé. Ils redonnent confiance à des joueurs cadres comme Mandanda dans le but. C'est quand même important parce qu'hier, s'il fait pas l'arrêt décisif en début de match sur la tête de Capel, ils sont menés 1-0 et c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Ils ont un plan de jeu qui est très clair et défini, qui a surpris leur adversaire hier. Il est arrivé face à une équipe qui aime pas avoir le ballon. Il leur a complètement délaissé le ballon. Angers a fini le match avec 70% de possession. Ça leur a jamais arrivé. Ils ne savaient pas quoi faire du ballon. Donc, ils préparent bien ces matchs. Et surtout, moi, je suis d'accord, ils profitent de la faiblesse du championnat. Moi, ça me rappelle surtout ce qui s'est passé avec Lille la saison passée. On est exactement dans la même situation. Et ils ont un point de moins, l'OM, que Lille la saison passée. Ils sont à 30 points. Lille avait 31 points après 14, 16 journées. Donc, ils sont dans les mêmes conditions. Ils profitent certes des gros qui n'avancent pas, mais ils font leur saison, ils font leur petit bout de chemin. Si c'est cohérent, et je trouve de tous les gros, Lyon, Monaco et Marseille, c'est les plus cohérents depuis le début de saison.
Non, mais sachant que Thauvin n'est pas là, donc c'est-à-dire que le moment où Thauvin reviendra, ça sera un vrai plus pour cette équipe.
Mais surtout, on a l'impression qu'il tire le meilleur de certains joueurs. Je dirais même Strootman, où il arrive quand même. Non, mais Karine, je vois votre tête, et on le sait tous qu'il a des faiblesses, qu'en plus il est arrivé blessé, et tout ce qu'on a su ces derniers temps. Mais malgré tout, il le met sur le terrain, il ne perd pas ce jour-là, il a même 6 dans l'équipe.
Oui, mais après, honnêtement, il y a eu des matchs de l'Olympique de Marseille sans Strootman, et c'était pas.
Mieux.
mieux. Pas plus. Non, c'était pas plus mal. Dire mieux, c'était pas plus mal. Après, à partir du moment où t'es pas énormément pressé par ton adversaire et il y a pas un rythme de fou, bon, bah, Strootman, il sait faire. C'est un joueur de très haut niveau qui a eu une très belle carrière. Donc, si tu le presses pas, non, mais si tu le presses pas et s'il y a pas un rythme de fou, Strootman, il peut être au rendez-vous.
Il dépanne.
Non, mais il peut être au rendez-vous. Mais après, dans la construction de l'effectif, il faut quand même se rappeler que Rongier n'était pas une obligation. Je veux dire, ils ont pas tout fait bien. C'est pas parce que les résultats sont bons qu'il faut oublier tout ce qui a été mal fait. Jacques-Henri Hérault, il s'est évertué à prendre Rongier, donc finalement après le mercato, donc c'était leur joker.
Aujourd'hui, ce choix, il paye. Et là,
beaucoup de monde s'est trompé. Sauf que ça reste cher.
Beaucoup de monde s'est trompé sur Rongier.
Et t'avais besoin d'un 6. C'est pas Rongier le problème.
Non, mais
c'est
personne pensait qu'il pouvait associer et Rongier et Sanson dans un milieu de terrain. Il est en train de le faire.
Mais pour moi,
ça marche. Les deux jouent très haut, ils pressent très haut. On l'a vu encore hier, quand ils sortent le ballon très vite, c'est les deux qui pressent le plus.
Mais sauf que le problème, c'est que tu te retrouves aujourd'hui avec Camara parfois qui est obligé d'épanner en 6.
C'est pas grave.
Que tu n'as pas de sentier. Non, mais c'est pas grave parce que ça passe. Mais tu ne peux pas dire juste c'est pas grave parce que les résultats sont là. Dans la construction d'un effectif, moi je suis désolé, ils ont fait des choses bien, à mes yeux, c'est-à-dire en défense et en prenant un buteur, en tout cas un numéro 9 qui est mieux forcément que Mitroglou. Mais il y avait un problème au niveau des latéraux et il y a toujours un manque au niveau des latéraux. C'est pas parce que tu bricoles et que ça marche que c'est forcément bien pensé de la part de la direction. Et pour moi, au milieu de terrain, il fallait prendre un autre 6 et ils ne l'ont pas fait.
Il faut les moyens pour
ça.
Quand tu n'as pas les moyens, c'est
que tu prends des joueurs qui coûtent un bras et tu leur mets des salaires de.
Oui, mais ça,
ministre.
C'était le passé, c'est il y a deux ans.
Aujourd'hui,
l'effectif qu'ils ont, il est en train de tirer le meilleur de ce qu'il a sous la main.
Mais c'est pas Villas-Boas, moi, qui
veux. Et à un moment donné, la politique de vouloir recruter sans arrêt quand ça va pas, ça sert à rien. Il faut laisser les gens construire. Villas-Boas, c'est ce qu'il est en train de faire. Et pour l'instant, ça marche. Je dis pas que ça va aller jusqu'au bout. C'est quand même sur un fil, parce qu'il a un effectif très limité. Mm-hmm. S'il manque un blessé majeur.
Oui, mais vous l'avez entendu. Il dit que ce qu'il est content aussi, c'est de pouvoir compter sur ceux qui sont sur le banc.
Bien sûr.
Et qui, quand ils sortent du banc, et on pense à Maxime Lopez.
Il y a aussi un élément important, c'est qu'il joue pas de Coupe d'Europe.
Oui,
et ça, c'est majeur.
Et qu'il est déjà éliminé de la Coupe de la Ligue.
Mais c'est majeur, ça, dans une saison, quand même. Par rapport à Lyon. Et à Lille, c'est quand même majeur.
Mais moi, je suis désolé. Moi, je,
vous savez, le PSG aussi sorte le numéro. Ils cherchent un numéro 6.
Oui,
peut-être que ça existe pas.
Villas-Boas, mais pour moi, le mauvais travail de la direction, il est toujours présent. Je veux dire, il faut.
Tu parles de Zubizarreta déjà. Dans
de la direction générale. Il ne faut pas aveugler les gens.
Tu peux pas l'effacer en un été. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas l'effacer en un été.
Cet été, ils n'ont pas tout bien fait. Et pour moi, Rongier, par exemple,
ce
n'était pas la priorité.
Plusieurs étés,
ce qu'ils ont fait, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Que ce soit Alvaro, Benedetto et Rongier, c'est plutôt des bons renforts.
J'en mettrais 2/3, parce que Rongier n'était pas une priorité. Et Rongier, c'est cher pour l'OM.
Non. En tout cas, arrêtons-nous maintenant sur Dimitri Payet. Alors, je vais donner la parole à l'adversaire, à Eric. Eric, c'était un but, une passe décisive. Et c'est vrai que le Réunionnais, qui a l'air de retrouver ses jambes, retrouver sa vista, peut-être sa motivation aussi. On l'avait peut-être pas vu aussi bon depuis bien longtemps, depuis l'époque Marcelo Bielsa, peut-être.
Depuis West Ham.
Et c'était,
depuis son passage à West Ham, où il marchait
2016,
sur l'eau.
C'était 2016, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça qu'il dispute l'Euro, d'ailleurs, avec l'équipe de France. Quelle est l'explication pour ce joueur de 32 ans, tout d'un coup, il retrouve quoi ? Une motivation, une envie, parce que le talent,
il a raté 4 matchs, donc déjà 4 matchs, presque 4 semaines de compétition, ça veut dire t'as peut-être travaillé un peu plus, ça lui a permis peut-être de se remettre mieux physiquement.
De se reposer.
Mais Payet, c'est pas une question de football, parce que le football, il l'a. C'est une question de régularité.
Comment on est régulier, Eric ?
Je sais pas si c'est une question d'envie, je crois que c'est des fois,
quand il avait plus envie et qu'il voulait juste partir, il a arrêté de jouer. Et ses coéquipiers dans le vestiaire.
Je pense qu'il y a un problème de caractère aussi, c'est vrai.
Ouais.
Mais sinon, au-delà de ça, les qualités, il les a. Après, faut qu'il soit régulier. Et ce sera toujours le problème de Payet. C'est-à-dire que là, il a 32 ans, il ne va pas changer maintenant. Hein. Ça veut dire que là, il va vous dépanner sur certains moments ou parce qu'il y a des matchs de prestige et il est capable de jouer ces matchs de prestige et puis après sur d'autres trucs il va redescendre.
Nos confrères de l'équipe se demandent aujourd'hui est-ce qu'il pourrait être appelé en équipe de France.
Didier Deschamps a vraiment fermé la porte parce que lors du dernier rassemblement Didier Deschamps a fermé la porte. J'espère qu'il va pas la réouvrir.
J'ai dit tout à l'heure mais je le pense sérieusement. Payet n'a jamais rien gagné donc déjà Deschamps il pourra pas le prendre quand il est à l'Euro. Il a pas gagné l'Euro Deschamps.
Ils se sont groupés. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais... je vois pas pourquoi il... irait le rechercher.
Et de toute façon, avec ce qu'il a, je veux dire, maintenant, tu
sais, pas
il
n'y
a aucune raison d'aller chercher Payet avec tout ce que tu peux avoir.
Non, mais il a été champion du monde sans lui, pourquoi il est recherché? Et puis, qu'est-ce qu'il représente comme l'avenir à 32 ans, Payet?
Non, mais il s'appelle l'avenir, c'est une compétition qui s'appelle l'Euro.
Deschamps, il travaille toujours par rapport à l'avenir.
Et beaucoup, ouais, c'est vrai, il travaille beaucoup les jeunes.
Oui, c'est vrai aussi, mais là, entre la Coupe du Monde et maintenant, c'est à court terme, là, c'est l'Euro et c'est au mois de juin.
Non, je pense
pas. Non, mais Deschamps a quand même été questionné et il dit jamais non, mais ça. Réponse était quand même extrêmement fermée. Donc
oui, il sait faire le. Je te le dis pas, mais je te fais comprendre que non, en fait.
L'autre Olympique, donc Karine, qui jouait hier soir et qui était moins heureux. Décidément, hein, c'était pas une bonne soirée pour vous.
Lyon-Marseille, je trouve ça bien, mais je veux dire, j'ai de la mémoire, moi, donc j'oublie pas tout ce qui a été mal fait.
Non, non, mais vous avez raison. Lyon s'est incliné sur sa pelouse, donc 1-0, battu en plus par Lille, qui ne gagnait plus aucun match à l'extérieur depuis quelques temps. Là, c'est Ikoné, hein, qui a marqué ce but. Est-ce que l'OL vous a paru inquiétant hier soir, alors qu'en plus, il y avait le retour de Memphis Depay, le capitaine, le joueur quand même emblématique de cette équipe? Et surtout, alors c'est une nouvelle défaite de l'équipe dirigée désormais par Rudy Garcia. Ils ont perdu 4 matchs sur 10. Et surtout, ils sont à une semaine d'un match capital. Et il faudra qu'ils gagnent chez eux face à Leipzig s'ils veulent continuer en Ligue des Champions.
Oui, le problème quand même des Lyonnais, c'est tous les grands matchs cette saison, ils les ont perdus. Alors, je sais pas si Lille, c'est vraiment un grand match, mais ça reste un nom. Mais l'an dernier, on parlait toujours de l'irrégularité lyonnaise, mais les Lyonnais se sublimaient lors des grands matchs. Cette année, 2 matchs de Ligue des Champions très importants, tu perds à Benfica, tu perds au Zénith. En championnat, t'as tout perdu lors des grands rendez-vous, le PSG, Saint-Etienne, Marseille, Lille.
C'est l'effet Garcia.
En tout cas, il n'y a pas d'effet après Genesio. Et dans le contenu, oui, moi, j'ai trouvé une équipe à nouveau inquiétante, comme celle que j'avais pu voir au Zénith. J'étais en Russie parce que face à Nice et face à Strasbourg, tout n'était pas bien fait, mais les résultats tournaient en leur faveur et ça pouvait enclencher une dynamique. Et là, on a retrouvé un milieu de terrain qui met pas de rythme. Il ne se passe rien. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que le meilleur joueur était Depay. Depay qui revenait quand même d'une absence de 4 matchs. Et c'est très inquiétant. On avait parlé de Reina Adelaide qui avait fait des bonnes choses et qui avait marqué. Ben là, hier, il était un petit peu dans le bouillon comme tout le monde. Donc, les Lyonnais sont très décevants, mais les deux, hein, parce que Lille aussi, hein. En fait, les deux équipes étaient extrêmement décevantes.
Un peu un coup de chance.
Et finalement, il y a une erreur qui profite aux Lillois. Donc voilà, c'est le niveau aussi de la Ligue 1 aujourd'hui. C'est un exemple parfait. Lyon et Lille doivent être aux avant-postes, et c'était médiocre des deux côtés.
Eric.
Lille a 2 occasions, il marque un but, donc c'est pas compliqué. Et Lyon, j'ai dit tout à l'heure, Marcelo, c'est sur une relance de Marcelo qui fait pas mal de conneries, faut avouer. Tant qu'ils n'auront pas trouvé un vrai Edmilson à l'ancienne, qui est là dans la défense et qui tient le choc. De Neyer, c'est pas mal. Mais à côté de lui, il a besoin de quelqu'un qui soit costaud et qui représente la sécurité de cette défense. Tant qu'ils n'auront pas de défense, Lyon, devant, ils auront toujours des choses parce que voilà, ils sont intéressants avec Depay, Dembélé et même Cornet. Ouais, voilà, même au milieu de terrain, c'est possible. Mais si t'as pas ta base défensive, le but qu'ils prennent là, c'est une catastrophe.
Mais pourtant, on avait quand même parmi les meilleurs Lyonnais sur la pelouse, Bruno, parce que il y avait Depay, il y avait après Moussa Dembélé est entré, il y avait
quasiment
Cornet,
l'équipe type. Aouar
était là aussi. Mais
c'est les joueurs majeurs, mais qui reviennent de blessure. Donc Memphis pouvait pas jouer plus d'une heure, Aouar pouvait pas débuter.
Et il y a le match de Leipzig.
Il y a le match de Leipzig qui est très important.
J'avais déjà ça en tête alors.
Quand je parlais de l'effet Garcia, j'étais ironique mais à demi, parce que Garcia, on lui reprochait de pas être bon dans les grands rendez-vous face aux concurrents directs en championnat et en Ligue des Champions. Ouais. C'est exactement ce qui se passe
avec
Lyon. Donc ça peut déjà interpeller. Après, on peut pas tout mettre non plus sur Garcia, parce qu'on s'aperçoit que tous les entraîneurs qui se succèdent à Lyon, Genesio, Silvino et Garcia aujourd'hui, ils ont exactement les mêmes problèmes. Et qu'à un moment donné, la responsabilité, c'est aussi des joueurs. Et ceux qui ont construit ce groupe. Parce que moi, je trouve que ce groupe, il y a ses moyens, finalement. Quand les joueurs, ils ne sortent dans la saison que 4 matchs par saison, ils ont du talent. Mais s'ils avaient vraiment du talent, ils le feraient semaine après semaine. Et là, c'est pas le cas. Et ça retombe, je trouve, très vite dans la médiocrité. On parlait de la défense. Dans les deux défenseurs centraux, il n'y en a pas un qui est capable de relancer proprement. Devant eux, ils ont un milieu de terrain défensif Touzard qui est pas très bon dans la relance, qui techniquement est assez moyen. Et du coup, pour la construction, la créativité, c'est très compliqué dès le début. Dès la relance, c'est compliqué. Donc ils peuvent pas toujours s'en sortir avec un exploit individuel de Memphis Depay. Et là, en l'occurrence, il a pas pu tenir plus d'une heure.
Un petit mot sur Bordeaux. L'équipe de Bordeaux, les Girondins de Bordeaux qui du coup se retrouvent troisième sur le podium.
Et personne n'en parle. On parle plus des problèmes des dirigeants. C'est fou comme en fait Bordeaux n'intéresse pas, c'est terrible.
Alors pour l'instant, c'est encore un problème assez touffu d'investisseurs. Voilà, exactement.
Le stade est vide.
Mais est-ce que ça vous surprend, Paulo Sousa, qui est l'entraîneur portugais, encore un lusophone par là, est-ce qu'il est convaincant dans ce qu'il arrive à tirer de son équipe, Karine?
Nicolas Villas, qu'on connaît bien ici, dès sa prise de fonction, avait dit que ça serait un entraîneur qui apporterait beaucoup au championnat de France, qu'il lui fallait du temps, parce qu'on rappelle que ses débuts ont été quand même très compliqués. Et effectivement, il a jamais varié, Paulo Sousa, il avait son idée, et là, c'est en train de fonctionner et de prendre. Donc, déjà,
parce
bravo.
Que lui aussi, il a pas de star ou de grand joueur dans son effectif.
C'est moi qu'on puisse dire. Déjà, bravo quand même à la direction de pas l'avoir viré, parce que ça arrive, de prendre un entraîneur et de le virer.
Ils ont d'autres problèmes, apparemment,
parce que
la direction.
Ça ne prend pas. Et finalement, il le laisse travailler. Et ce qu'il fait aujourd'hui est très cohérent. Et honnêtement, même travailler dans ces conditions, c'est quand même très compliqué.
Bah oui.
Bruno le disait, il n'y a pas un rat dans ce stade. Et en plus, ils étaient 25 milliards pour finalement stopper la partie pendant près d'une
vingtaine de minutes. Ouais.
Donc, ce qu'ils font sur le terrain, ça, en tout cas, c'est vraiment bien.
Il y a des similitudes avec ce que fait Villas-Boas à l'OM, en fait. Je trouve qu'il y a la même sérénité, le même discours apaisé. Il met quelque chose en place. C'est assez cohérent. C'est pas extraordinaire, mais c'est en train de se mettre en place. Et moi qui étais supporter des Girondins depuis mon enfance, où on a totalement perdu ce club depuis 5-10 ans,
c'est juste une catastrophe. Depuis l'époque Laurent Blanc, pratiquement.
Le dernier titre, c'était en 2009.
Oui,
2009,
et après, il y a eu une succession d'entraîneurs virés en milieu de saison, changés à l'intersaison. C'était effectivement, on les a perdus de vue.
Mais il y a tel souci à la tête du club qu'on se demande si ça va durer, s'ils vont pouvoir travailler dans les conditions.
Les soucis à la tête du club, c'est en fait un conflit, enfin un désintérêt peut-être même de l'investisseur principal qui est un fonds de pension américain.
Peut-être pensante du fonds de pension qui se déchire et en gros il y en a un qui va être passé majoritaire et...
Et qui s'intéresse pas vraiment au foot.
Et voilà, c'est pas celui qui était le plus impliqué dans le club, donc il y a forcément des inquiétudes autour de ce club.
Mm-hmm. Bon. Ce qui m'inquiète, c'est Nîmes, parce que Nîmes, c'est une catastrophe.
Bah oui.
Les crocos s'en sortiront de Nîmes. Avec Blackard.
Ils s'en sortiront. Il a dit qu'il ne voulait pas abandonner ses joueurs.
Ils sont
avant-derniers.
Mais non, mais parce que de toute façon, il y a un moment. Moi, j'adore Nîmes et j'adore surtout ce que fait Blackard. Il n'y a pas de magie. Quand tu perds tous tes meilleurs joueurs parce que tu les vends et que tu es dépouillé.
Ouais, alors c'est pire que ce qui est arrivé à Lille ou
à
Monaco, ils ne peuvent pas corriger.
C'est un entraîneur qui fait grandir ses joueurs, qui est aimé par ses joueurs, qui est très offensif. Alors hier, il avait décidé de faire un système un petit peu plus défensif. On ne peut pas lui en vouloir et ça n'a pas non plus fonctionné. Mais les Nîmois ne sont pas du tout distancés pour la relégation, ils sont à 3 points.
Oui,
donc honnêtement, ils peuvent s'en sortir. Mais il y a un moment.
Mais depuis
c'est quand
le début de saison, ils sont quand même beaucoup.
Non, mais là,
oui, ça fait 9 matchs en
6.
Mais c'est quand même dommage. Parce que Nîmes pouvait grandir avec les joueurs qu'ils avaient l'an dernier. Je comprends qu'ils en vendent quelques-uns.
Oui,
parce que
notamment celui qui est parti à Saint-Etienne, on pensait à Bouanga.
Ils ont vendu tout le monde. Enfin, ils ont vendu tout le monde. Ils ont vendu tous leurs meilleurs éléments. Si tu en vends quelques-uns pour continuer à grandir et à faire rentrer de l'argent, ça peut se comprendre. Là, tous leurs meilleurs éléments sont partis et Blackard s'est retrouvé avec une équipe complètement dépouillée. Donc, cette galère, elle était prévisible.
Mmh. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais comme vous nous le dites, Karine, ils se sauveront.
Oui, avec Blackard, vous vous sauvez. Moi, je suis très confiante.
Alors, on va les regarder à la loupe. Et on part vers l'Italie. L'Italie, parce qu'il se passe des choses en Serie A.
De Ligt, mésentente, De Ligt, Caputo, la frappe de Caputo, la parade et le ballon qui va quand même au fond.
Une addition de trois erreurs grossières.
La Juve tenue en échec sur sa pelouse, deux buts partout face à Sassuolo.
Lautaro Martinez, 6 sur 5, les défenseurs de la Spal face aux deux Interis. La frappe, oh, elle est parfaitement placée, cette balle de Lautaro Martinez. Centre, oh qu'il est beau ce centre. Un deuxième doubleur quelques jours pour Lautaro Martinez. Et Antonio Conte et les Interis s'imposent 2 buts à 1. Une victoire qui permet à l'Inter de prendre la tête de la Serie A.
Oh. Et l'Inter revient à la première place de la Serie A, le championnat d'Italie. Place que le club des Nerazzurri de Milan avait dû abandonner, eh bien, la Juve, juste après la confrontation à Turin. Et oui, puisqu'il n'avait pas gagné l'Inter Milan à Turin. Alors, un petit point d'avance, car l'équipe d'Antonio Conte, eh bien, gagnait au cours du week-end contre la Spal. Spalé, je crois qu'on dit, du côté de l'Italie, pour la cinquième fois consécutive, alors que l'équipe de Maurizio Sarri, eh bien, elle avait concédé le nul face à sa Sassuolo. Et c'est vrai que, en connaissant ce résultat, eh bien, ils se sont surpassés, ces joueurs de l'Inter, et notamment un de leurs joueurs, on y vient, avec Matteo Cioffi. Bonjour Matteo.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Matteo, ces deux équipes qui se suivent et qui creusent l'écart en tête, hein, parce que derrière ça va commencer à être compliqué de les suivre, mais surtout ces deux équipes qui un peu alternent à la première place, après 14 journées, pour vous, qui est la plus forte ?
On n'avait pas prévu cette question. Non, honnêtement, je les vois. On peut dire que le duel est très ouvert. Il y a aucune de deux équipes qui pourrait être favorite sur l'autre. Pour l'instant, le classement parle de manière assez claire. L'Inter a un point seulement de plus, donc tout est encore ouvert. Et on a d'un côté la Juve et son grand potentiel collectif, plein de champions qui jouent ensemble depuis longtemps et presque par cœur. Une Juve sûre d'elle, même si peut-être un peu trop sûre d'elle, car on l'a vu concéder aux adversaires quelque chose de trop par rapport au passé. On remarque des fautes d'inattention, comme samedi face à Sassuolo, et surtout un peu de présomption qui a coûté assez cher. C'est vrai qu'avec le jeu de Maurizio Sarri, on a quelque chose de moins tactique si on le compare. Que celui de Massimiliano Allegri. Donc, en face de la vieille dame, il y a l'Inter qui n'est pas vraiment une surprise, mais certainement représente la nouveauté. Une équipe équilibrée à tous les niveaux, qui a montré de ne pas se décourager après quelques défaites. Et c'est vraiment de plus en plus l'image de son entraîneur Antonio Conte dont elle absorbe, disons, le caractère. Oui. Et puis ajoutons que l'Inter, avec 12 victoires dans les 14 premières rencontres de championnat, a établi un record dans l'histoire même du club milanais. Jamais aussi bien comme cette année.
Oui, même si la Juve reste, si je ne me trompe pas, la dernière équipe, une des dernières équipes avec les Reds, à ne pas avoir perdu de match en cette saison, hein, pour l'instant. L'Inter ou la Juve, vous qui les observez, ces équipes, Bruno, Constant, est-ce que vous êtes surpris de voir que cette année, on chatouille un peu la Juve, un peu plus peut-être que les autres années, mais surtout, c'est pas Naples, on y viendra. D'habitude, c'était Naples toutes ces dernières années. Et là, tout d'un coup, on retrouve une autre équipe. À l'époque de Garcia, ça avait été la Roma et tout. Et là, c'est l'Inter. Est-ce que c'est une surprise ou est-ce que finalement, avec Antonio Conte, qu'on avait vu à Chelsea, ouais, bien sûr, est-ce que c'était un peu couru d'avance?
Non, c'est qu'une demi-surprise. Parce que moi, je trouve ce qu'il est en train de réaliser avec l'Inter, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a fait à Chelsea, où en peu de temps, il avait construit une équipe très compétitive, un bloc très compact et qui sort très vite. Et la grande différence, c'est qu'en Italie, souvent, il y a eu des équipes qui sont venues chatouiller la Juve, il y a eu Naples, il y a eu la Roma. Et je trouve que Naples et la Roma, c'est des équipes très joueuses. Et l'Inter, c'est tout le contraire. C'est une équipe qui est cynique, qui est ultra réaliste, ultra efficace en contre. Conte s'est armé avec un joueur dont il rêvait de travailler depuis un moment, parce qu'il voulait le récupérer à Chelsea déjà à l'époque, donc Romelu Lukaku, et il s'était fait shipper au dernier moment par Mourinho et Manchester United. Il avait été furieux après ses dirigeants à cause de cette histoire-là. Et là, finalement, ils arrivent à se retrouver tous les deux, à travailler ensemble à l'Inter, et on voit bien tout le potentiel qu'il amène avec ce joueur. Et je trouve que ouais, il est en train de bâtir une machine, et ça sera d'autant plus dangereux pour la Juve, même si la Juve, sur la longueur, il y a un effectif beaucoup plus riche et beaucoup plus complet pour aller au bout.
Oui, en tout cas, elle a aligné, si je ne me trompe pas, 8 titres. Hein, c'est bien ça, Matteo. Hein, c'est 8 titres de champion d'Italie pour l'instant consécutif.
Oui.
Hein, c'est ça.
Exactement.
Eric Gravesandratana, est-ce que ça vous surprend, vous, ou est-ce que finalement vous détectez aussi peut-être quelques failles du côté de la Juve ?
Oui, il y a un problème défensif pour l'instant du côté de la Juve. Parce que quand on regarde
étonnant,
les buts...
non ?
Oui, étonnant. Hein, très étonnant. Alors après, quand on regarde les buts qu'ils prennent, C'est plutôt.
Matteo parle de suffisance ou d'inattention.
Je parle
qui
pas
conduit
de Buffon parce que c'est une catastrophe, mais là je parle surtout de Ligt qui est un peu léger aussi depuis le début de saison, qui a du mal à s'acclimater.
À s'acclimater,
c'est compliqué. Moi, je vais dire que l'Inter, le meilleur est devant. C'est-à-dire que l'Inter, pour l'instant, ils sont meilleurs que la Juve.
Grâce à l'offensif.
Bah parce que ouais, ça marche bien ce duo devant. Il y a une bonne entente. Ils sont solides. Ils sont organisés. Conte amène un état d'esprit qui est important et qui leur permet peut-être de faire les résultats qu'il faut pour suivre la Juve et maintenant passer devant. Mais la Juve a plus d'expérience, comme tu disais, Bruno. Alors, il faut regarder sur la longueur. Mais il y a quand même plus de problèmes qu'avant. C'est-à-dire que avant, il y avait plus de régularité. Là, il y a moins de régularité et en plus des problèmes défensifs.
Il faut rappeler aussi qu'ils ont changé d'entraîneur. C'est Mauro Sarri qui est arrivé et que Sarri, il met un certain temps avant de faire jouer ses équipes d'une certaine manière. Il faut vraiment apprendre le système Sarri. Donc, c'est un peu différent.
Ronaldo,
on se souvient. On va y venir à Ronaldo.
Je conseille à tous, je sais pas si vous l'avez lu, mais il y avait une interview très intéressante d'Antonio Conte dans l'équipe magazine, pas de cette semaine. De la semaine passée,
il y a 10 jours.
Voilà, où il expliquait ce qu'il voulait faire à l'Inter, qui s'adaptait à ses joueurs, qui s'était adapté aux caractéristiques de ses joueurs à Chelsea, qu'il avait fait aussi à la Juventus, qu'il faisait aujourd'hui à l'Inter, et qu'évidemment rien n'était au hasard. Et cette interview est passionnante. C'était dans l'équipe magazine.
Oui, c'était il y a
du 23-11, du 23 novembre.
Du 23 novembre. En tout cas, Matteo, une petite question avant qu'on y vienne à l'homme qui fait un peu lever les supporters du côté de l'Inter. Et c'est un peu la renaissance de l'Inter. Ça faisait longtemps qu'on la guettait. Mais on s'interrogeait, notamment avec Eric Rabessandratana, sur Buffon. Buffon dans les buts. Buffon, il n'en est pas à sa première bourde. On l'a encore vu au dernier match. Est-ce que Buffon, en Italie, on veut pas le mettre à la retraite ?
Bah, écoutez, le pauvre.
Ça fait mal au cœur.
Il a commis une faute assez grave lors du match avec Sassuolo, mais il a partagé avec De Ligt, donc il n'est pas totalement coupable. C'est vrai que ce choix de Maurizio Sarri a soulevé pas mal de polémiques, parce que dans ce moment très délicat du championnat, il faudrait peut-être miser sur celui qui est le gardien numéro un de l'équipe, qui pour l'instant est même un des hommes en plus de l'équipe bianconera. Donc, on n'a pas vraiment compris, disons les supporters de la Juve et l'opinion publique n'a pas vraiment compris ce choix de Maurizio Sarri, mais on sait bien que Buffon, Gigi Buffon, veut établir le record de présence en Serie A, donc ça fait partie aussi de son accord.
Ouais, mais ça, c'est peut-être de la suffisance.
Il manque combien de matchs pour Buffon?
Je crois qu'il en manque 7 ou 8. Ah. Je ne m'appelle pas vraiment le classement.
D'accord.
Donc
il va y arriver, quoi.
Paolo Maldini commence à trembler. Il tremble pour des autres choses maintenant, Paolo Maldini, pas pour Buffon. Il a des autres ennuis.
D'accord.
Il n'y a doute rien.
Bon, okay. on se posait la question parce qu'effectivement, au Paris Saint-Germain, le passage de Buffon a laissé plus de questions, je pense, que d'admiration ou de conviction. Matteo, parlez-nous de cet homme qui contribue au succès de l'Inter, qui donc fait lever les supporters. Et peut-être oublier Mauro Icardi, qui est passé au Paris Saint-Germain, où là, il est devenu une pièce très importante. C'est un autre Argentin et c'est Lautaro Martinez.
Oui, je peux vous assurer que les tifosi de l'Inter sont bien contents d'avoir oublié Mauro Icardi. écoutez, Lautaro Martinez, il est arrivé l'année passée à Milan. Il avait été annoncé comme un talent pur, mais on a eu du mal à s'apercevoir de lui, car c'est lui qui était son entraîneur, Luciano Spalletti. L'année passée, il le faisait jouer très peu. En plus, Spalletti l'utilisait comme ailier offensif et non pas plutôt comme avant-centre. Et voilà donc que Lautaro Martinez a souffert à son début, pour ensuite cette année vraiment exploser, montrer de quoi il est capable. Il est devenu indispensable dans le jeu en contre d'Antonio Conte. Martinez, c'est quelqu'un qui marque beaucoup, 13 buts. Jusqu'à maintenant, il en avait marqué seulement 9 toute l'année passée. Mais Lautaro Martinez, c'est aussi quelqu'un qui court beaucoup, chose qui souvent confond ses adversaires. Et surtout, Lautaro Martinez, le taureau, c'est son surnom, a réussi à trouver une excellente entente avec son partenaire, le Belge Lukaku, et au contraire de ce qui s'était passé la saison dernière avec Mauro Icardi.
Vous parliez, messieurs, tout à l'heure de ce duo. C'est vrai que Lukaku-Martinez, ça fonctionne bien.
Ça marche très très bien. Il peut même en mettre un troisième sur la passe de Lukaku quand il se présente tout seul, où il en rajoute un petit peu trop. Mais c'est un vrai buteur, tu vois la finition qu'il a. Les buts qu'il marque, le premier quand il marque croisé comme ça, c'est un vrai buteur, c'est un but d'attaquant qui va se créer les occasions tout seul. Donc après, il est capable de finir aussi, il bouge beaucoup, c'est vrai, il fait beaucoup d'efforts et c'est un très très bon joueur.
Bruno, cet Inter, en plus, on les a vus tenir un peu la dragée haute au Barça. Hein. On se souvient en Ligue des Champions, alors même s'ils n'ont pas battu le Barça, mais en tout cas, quand ils avaient commencé à marquer au Camp Nou et tout, ça signe un peu peut-être le retour de cet Inter grâce à des joueurs comme ça.
L'Inter, et grâce encore une fois à Antonio Conte, qui tactiquement excelle, il est très très fort pour faire déjouer les autres.
C'est sa force.
Et pour tirer le meilleur de ses joueurs, c'est exactement ce qu'il a fait à Chelsea. Moi, je suis curieux de savoir s'il est capable de mener l'Inter jusqu'au bout, même si ça va être compliqué.
Jusqu'au titre, donc.
Et surtout, il est le seul petit chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il est déjà en train de se mettre en colère avec ses propres dirigeants, comme ce qui s'était passé à Chelsea. Ça peut très vite mal tourner avec Conte, c'est un sanguin. Et là, il veut absolument se renforcer dès cet hiver. On parle d'Arturo Vidal. S'il arrive à attirer Vidal à l'Inter avec qui il a déjà travaillé, là, ça sera un renfort de poids. Mm-hmm. Mais voilà, c'est la petite chose qui me fait douter aussi de Conte avec l'Inter. Ça peut vite être tendu.
Mathéo, Pardon. Parce que vu que c'est pas fait en Ligue des Champions et qu'il pourrait être troisième, aller loin après en Ligue Europa, c'est quand même totalement envisageable. Si pour l'Inter, il gagne une Ligue Europa, ça serait déjà très bien.
Oui, ça peut parfois aider un entraîneur. Mathéo, alors il y a des questions, par contre, c'est autour de Cristiano Ronaldo. Alors lundi soir, il a été honoré par l'Italie, puisqu'il a remporté le titre de meilleur joueur de la Serie A, alors qu'il y avait la soirée des Ballons d'Or, où il n'a rien gagné.
Incroyable, très étrange.
Il n'était pas venu, disons, c'est fou.
Hein, il n'est pas venu applaudir son copain Messi.
Tout le monde n'est pas Lucas.
Est-ce qu'ils ont mangé ensemble, déjà?
En tout cas, il a un peu perdu son sourire et son efficacité légendaire. Est-ce qu'il marque le pas? Est-ce qu'il vieillit? Ou est-ce qu'il n'est pas Sarri compatible?
Écoutez, Ronaldo est sûrement en souffrance, on le voit sur le terrain. Ça fait désormais 4 ou 5 matchs où il est en difficulté. Il est souvent absent du jeu, mais aussi assez imprécis. Il faut dire que le Portugais a mal digéré quelques remplacements de trop. Et peut-être commence un peu aussi à souffrir l'actuelle popularité de Paul Dybala, qui au contraire est en excellente forme. Et même si souvent en remplaçant, chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il arrive à changer le cours d'un match en faveur de son équipe. Il faut donc s'inquiéter pour Ronaldo. C'est la question que l'opinion publique italienne se pose. Moi, je réponds non, parce que ce n'est pas le cas. En plus, je vous dis une chose, il y a une statistique sur Cristiano Ronaldo. Depuis qu'il a entamé sa carrière de professionnel, le mois de novembre ne lui a jamais vraiment trop souri. Et dans cette période de l'année, il a marqué le 7% de tous ses buts. Tandis que dans le mois de mars, il a réalisé le 40% de ses goals. C'est donc l'homme du printemps qui déteste l'automne.
Et surtout qui attend peut-être le printemps et l'été, parce qu'il y aura l'Euro, n'est-ce pas, dans le groupe de la France.
Il faut attendre en mars.
Mathéo, on va terminer vite avec Napoli. Napoli où rien ne va plus. Alors, situation éruptive, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les joueurs sont au vert, emmenés par leur entraîneur Carlo Ancelotti, qui veut les remotiver après leur défaite à domicile face à Bologne. Carlo Ancelotti, c'est rare, mais c'est un entraîneur en colère.
Le moment actuel est très délicat et extrêmement négatif. C'est pour cela qu'il est nécessaire de me retrouver avec toute l'équipe pour sortir au plus vite de cette période difficile qui, à mon avis, dure depuis trop longtemps. Je dois parler avec les joueurs et comprendre ce qu'ils pensent, ce qui ne va pas. Après le match de Liverpool, je pensais que tout allait mieux. Mais non, en championnat, encore une fois, on s'est montré trop fragile.
Mathéo, qu'est-ce qui se passe au pied du Vésuve? Qu'est-ce qui se passe dans ce club de Napoli qu'on a toujours vu jusqu'à l'an dernier, et même avec Ancelotti titiller la Juve? Et là, ils sont septièmes, ils sont loin du podium, et il y a des gros problèmes. On a l'impression entre tout le monde, entre Carlo Ancelotti et ses joueurs, entre les joueurs et le président du club, entre Carlo Ancelotti et le président du club.
Vous avez décrit exactement la situation actuelle. tout a éclaté. C'est une bombe vraiment qui a éclaté après le match de Ligue des Champions face à Salzbourg. Un nul à domicile qui avait été très mal accueilli par le président De Laurentiis, qui avait ordonné une mise au vert à tous les joueurs qui se sont refusés. Il y a donc eu de la part du président la menace de faire payer des amendes. Là, la situation est devenue encore plus tendue. Et en plus, la défaite à domicile de dimanche face à Bologne n'a absolument pas réglé la situation. Et bien entendu, vous l'avez compris, elle est empirée. Même Carlo Ancelotti est rentré dans la dispute. Il s'en est pris à son équipe. Il a voulu faire une mise au vert à son tour. Là, on continue à parler des mises au vert à Naples. C'est vraiment la couleur
qui joue en bleu.
Donc, Ancelotti s'en est pris à son équipe parce qu'il voit une équipe qui, selon lui, n'est pas concentrée, vous l'avez entendu, et il accuse quelques joueurs déjà, peut-être de penser à leur futur qui sera certainement pas Naples, mais on se demande si le futur même de Carlo Ancelotti sera Naples déjà à partir de janvier.
Oui, l'année prochaine. Bruno Constant.
Ce qui m'inquiète dans cette situation, c'est qu'en plus de ce qui se passe avec le président, les joueurs et l'entraîneur, c'est qu'il y a les fils d'eux, entre guillemets, qui interviennent aussi. C'est-à-dire que le club Eduardo De Laurentiis, qui est le fils du président, fait le tampon entre son père et le club au niveau sportif. Ça se passe très, très mal avec les joueurs. C'est lui qui est un peu le porteur de message. Ça se passe très mal. Et Davide Ancelotti, qui travaille avec son père, qui est devenu son adjoint, visiblement, Carlo Ancelotti délègue de plus en plus le terrain à son fils. Et c'était déjà le cas un peu au PSG où il était un peu promu dans le staff. C'était très très mal passé. Et j'ai l'impression que Carlo Ancelotti se détache un peu de ses responsabilités et s'éloigne un peu du vestiaire et de ses joueurs.
Et s'attache.
Ça, c'est jamais trop bon.
Eric.
Là, clairement, le Napoli, ils sont en fin de cycle. Donc, la catastrophe, c'est que les joueurs sont déjà sur le marché. C'est-à-dire que tout le monde essaye de se dire, alors qui je vais récupérer en hiver. Et les joueurs sont forcément tournés vers ça. Parce qu'ils se disent, on est mal barré et on va pas rester longtemps ici.
Alors qu'en Ligue des Champions, il leur reste un match et un nul à domicile suffirait contre Genk, le club belge, pour se qualifier pour le prochain tour. Un petit mot encore juste pour vous dire que Zlatan est apparemment attendu du côté de l'Italie. Matteo me disait tout à l'heure que c'est sa femme qui aimerait bien retourner en Italie. Alors, vers les Bianconeri, non, je plaisante, sans doute vers justement les joueurs du Milan AC. Oui, les Rossoneri, pardon. Et puis Ribéry, qui avait commencé pied au plancher, on s'en souvient, ne jouera plus en 2019. Il s'est blessé et la Fiorentina, elle va pas très bien, mais ça sera un autre chapitre. Merci beaucoup, grazie mille, Matteo.
Merci à vous, Annie.
Merci, à bientôt. Le mou attendu à Old Trafford, ses chants, c'était à sa gloire du temps où il y était encore, sur une pelouse où il a pourtant, pas obtenu ce qu'il voulait, et notamment ses dirigeants n'ont pas vu ce qu'il voulait. Il est donc parti, mais il revient avec Tottenham. Il semble que cet entraîneur, pourtant viré il y a un an, pour résultat donc pas forcément au niveau, ne soit pas honni à Old Trafford. Écoutons-le, José Mourinho ironisé sur ce retour.
Retourner à Old Trafford, c'est retourner dans un lieu où j'ai été heureux. J'ai une grande relation avec les fans de Manchester United. J'y suis retourné en tant que consultant avec un rôle différent. J'ai été ému par la manière dont ils m'ont accueilli. J'y retourne en tant que manager de l'équipe qui va tenter de battre Manchester United. L'approche sera sans doute différente. Je m'attends au respect qu'ils ont toujours manifesté envers moi. Mais je comprends que ce qu'ils veulent est l'opposé de ce que je veux. Je veux que Tottenham l'emporte. Ils veulent que Manchester United l'emporte. Durant la rencontre, bien sûr, je pense qu'ils m'oublieront et ils supporteront leur équipe.
Mourinho, de retour à Manchester United.
Ouais.
Face à ses anciens joueurs, il les a quittés il n'y a pas si longtemps. Ça peut bien se passer, Bruno ? Il est toujours aimé finalement là-bas ?
Oui, il va être acclamé. En fait, il se trouve que il a quitté le club il y a un an. Et quand il est revenu quelques semaines après ou quelques mois après en tant que consultant, les supporters l'ont aperçu à travers la vitrine du studio de Sky. Et du coup, ils se sont levés, ils ont commencé à l'applaudir et à scander son nom. Et effectivement, il y a eu toujours eu un bon rapport, un bon relationnel entre les supporters. Il les a jamais attaqués, il les a jamais critiqués. Les supporters l'ont jamais vraiment attaqué de front.
Il leur a dit qu'il n'entraînerait pas plus d'équipe à Manchester aussi. Ou...
Non. il n'est pas allé jusque-là, heureusement. Non, puis c'est l'entraîneur qui a rapporté aussi des trophées à United, que ce soit l'Europa League ou la Coupe de la Ligue. Donc ils n'ont pas oublié ça non plus. Hein. Il les a portés des aussi titres. Deuxième du championnat dès sa deuxième saison. Donc voilà.
Donc Mourinho, c'est toujours Mourinho, quel que soit le club qu'il emmène et qu'il dirige, Karine.
Bah, je trouve que c'est vrai que quand même en France, on
dit là
toujours,
qu'il a un peu changé.
Lui, ah non, moi je pense pas qu'il ait changé parce qu'il changera jamais. Les
comme
gens
à chaque
changent
fois
pas.
Qu'il reprend un nouveau club.
Et surtout à 50 ans passés, je pense pas qu'on change. Mais c'est vrai que quand même nous en France maintenant, on est quand même très négatif envers Mourinho. Mourinho, quand il revient à Stamford Bridge, évidemment, il est applaudi. Et quand il va donc retourner à Old Trafford aussi. Mais après, ça vient aussi des supporters anglais. C'est sûr que les supporters anglais n'ont quand même pas les mêmes notions que nous. Nous, on est quand même les premiers à huer les joueurs dès qu'ils font de mauvaises passes ou à assassiner un entraîneur qui était encore applaudi deux mois avant. Non, mais au moins,
après,
les supporters anglais ont de la mémoire par rapport à ça. C'est très appréciable.
Les supporters de Chelsea, il avait un peu chahuté quand il était revenu à Stamford Bridge avec United.
Mais il avait été aussi
ça dépend aussi un peu des clubs aussi. Mais
Non, alors ne commence pas à dire que les supporters de Chelsea n'ont pas de mémoire, parce que très souvent quand
ils ont de la mémoire.
Quand il y a les anciens de Chelsea qui reviennent, ils sont plutôt très bien
accueillis. Je pense qu'ils auront de la mémoire quand ils reviendront à Stamford Bridge avec Tottenham, parce qu'ils n'auront pas oublié qu'il a dit je n'entraînerai jamais
Exactement.
Tottenham.
Exactement. Bon. Et ça sera pour le prochain Radio Foot.
À l'époque, il était à Chelsea, donc il ne pouvait pas dire autrement.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, très clairement. Alors quand on lui a posé la question. Oui, mais avant, j'étais
De toute façon, il est entraîneur d'un club quand il est dans ce club, et il est entraîneur d'un autre club quand il est dans un club.
Il y a quand même des mauvaises langues aujourd'hui, des mauvaises langues qui disent qu'il a accepté le poste à Tottenham, parce que Tottenham, toute la saison, il y a Amazon qui est en train de tourner un documentaire sur la saison du club. Et que il voulait rentrer dans ce club pour redorer un peu son image, de montrer le personnage souriant et le bon entraîneur qu'il
était. D'accord, c'est pour ça qu'il a changé.
En fait, c'est un peu tiré par les cheveux.
C'est le sourire Amazon.
On a vu qu'il voulait à tout prix trouver du boulot.
Mais avec
quand même.
Mourinho, on peut s'attendre à tout.
Avec les indemnités qu'il a en fin de contrat, Karine.
Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est qu'il est habité par ça. Il a besoin d'entraîner.
C'est ce qu'il dit.
Et il avait quand même fait la tournée de tous les médias pour dire que l'Allemagne c'est sympa, l'Italie c'est top, la France pourquoi pas, l'Angleterre oui, l'Espagne oui, génial. En fait, il était prêt à tout.
À part le moment où il est allé à Lyon, apparemment.
Il était à Lille pour faire ses courses.
Il fallait un standing.
Ça, c'est sûr.
Course, c'est vrai course d'ailleurs. On va terminer avec un petit air de musique. Vous connaissez Bruno ?
Non.
Alors c'est un très 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 vieux refrain, mais remis au goût du jour par Paul McCartney. Ça s'appelle Ferry Cross the Mersey, et c'est évidemment le fleuve qui coupe Liverpool. C'est une chanson qui avait été faite pour gagner de l'argent et l'offrir aux familles des personnes décédées dans le drame de Hillsborough. Hillsborough, pardon, 96 morts en 1989. Mais ce soir en fait, il y a le derby de la Mersey. Ce soir entre eux, des bleus et des rouges, les bleus d'Everton qui reçoivent les rouges de Klopp. Alors évidemment, on sait que l'équipe des Reds ne veut pas, ne doit pas perdre. Manchester City a gagné hier et de nouveau deuxième, mais hier Manchester City l'a emporté et donc Liverpool a gardé quand même une certaine avance. Everton 17e, est-ce qu'ils sont en danger les Reds ce soir? Verra Mané, n'est-ce pas, n'est pas venu pour se réserver pour le match.
Il n'a pas eu le droit.
Ouais.
C'est Jürgen Klopp qui lui a dit qu'il n'avait pas le droit. En tout cas, c'était écrit dans le journal L'Équipe aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit.
Qui n'a pas voulu. Il a quand même. Il a quand même enregistré un petit message.
Je pense que le match était un réel problème. Rendez-vous parce que Van Dijk est venu et il est reparti en jet aussitôt. Ça pas.
Et Van Dijk, la classe absolue.
Oui.
Non, mais c'est important de le dire quand même, Annie. Parce que si vous voyez l'attitude de certains joueurs avec les fans, c'est assez pitoyable. Et Van Dijk a été classe du début jusqu'à la fin et il signait des autographes à tout le monde, pas que quand les caméras étaient braquées sur lui.
Résultat, il reste 10 secondes, Bruno.
Ils sont en danger parce que Klopp et Liverpool ont souvent eu du mal lors du derby de la Mersey face à Everton. Ça s'est joué souvent dans les dernières minutes.
Avec un entraîneur qui est quand même en sursis.
Oui, bien sûr, mais déjà, c'était déjà le cas la saison passée et ça s'était joué à rien, notamment je me souviens d'un ballon en décembre qui avait rebondi deux fois sur la transversale avant que Origi ne mette le ballon au fond des filets. Et
donc un super suspense pour ce soir à 21h15, hein, en heure de Paris. Merci à tous d'avoir participé à Radio Foot. Merci à Pierre Guérin et à Laurent Salerno. À demain.
Priorité santé.